Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans Mission Vision. Et aujourd'hui, cette émission va mettre en lumière ma chroniqueuse Séléna Fortier. Et on va parler d'un livre. Et je suis très contente qu'elle a choisi ce livre-là pour la deuxième chronique. On va parler du livre « Plein leurs yeux ». Vous allez voir, j'ai un petit lien avec l'autrice de ce livre. Et dans le deuxième segment, je vais recevoir Adam Ossini. Ça, c'est un jeune que je suis vraiment contente de vous faire découvrir. Il n'a pas d'handicap visuel, mais c'est sa deuxième édition qu'il crée un événement pour les jeunes en situation de handicap visuel. Il est vraiment inspirant. Il est tout jeune. Je pense qu'il a 21 ans, 22 ans. Il étudie en médecine. On va pouvoir le découvrir tout de suite après. Mais on commence avec Séléna qui est excitée. Elle sautille sur sa chaise. Elle est pas contente. On entend son rire.
Allô, Julie!
Allô, allô. Comment vas-tu?
Ça va tellement bien. Je comptais les dodos jusqu'à aujourd'hui.
Voyons.
Je te dis. Oh. Parce que le livre dont je vais te partager avec tellement d'amour, je l'ai lu pendant que j'étais en voyage.
Oui.
Et ça m'a tellement émerveillée. Ça l'a mis en lumière mon cœur d'enfant. Ça m'a donné. Ça donne foi en l'être humain, ce type d'histoire. Et « Plein leurs yeux » par Édith Lemay est un livre qui m'a tellement marquée. Et là, j'y vais de ce pas d'introduction.
juste de même, là, avant que tu y vas comme ça, pas d'introduction, moi j'ai une petite question parce que tu dis que tu l'as découvert quand tu étais en voyage. Ça fait combien de temps là, qu'il dort sur ta table de chevet, ce livre-là?
Je l'ai lu à l'automne.
OK.
Puis, entre-temps, je devais en parler de ce livre-là. Et c'est exceptionnel. Dans le fond, c'est l'histoire de Édith en couple avec Sébastien. Ils ont 4 enfants. Oui. Et Mia, Léo, Colin et Laurent. Et 3 de leurs 4 enfants, dans le fond, ils reçoivent un diagnostic alors qu'ils sont tout petits. Et 3 d'entre eux vont perdre graduellement la vue. Et les parents, après avoir appris ce choc, ils vont décider de remplir la mémoire visuelle de leurs enfants. Et ils décident de s'embarquer dans une aventure autour du monde. Et pendant plus d'un an, ils vont voyager, explorer, et vraiment, là, pas uniquement des lieux touristiques, mais vraiment là, des lieux là, vraiment qui sont exceptionnels pour la découverte. Pour je suis remplie d'admiration devant cette famille. Et je suis curieuse de t'entendre ça. Tu connais Édith?
Oui, exactement. Je connais Édith. C'est pour ça que je dis que c'est quand même... tu sais, j'étais contente que tu abordes, d'avoir envie de parler de ce livre-là parce qu'en plus, je reçois Édith la prochaine émission, la semaine prochaine, avec sa fille Mia, justement. On passe l'heure ensemble. Je l'ai invitée déjà là, il y a peut-être 2 mois là, que j'en parlais avec elle et je trouvais ça très drôle. Parce que toi, tu étais déjà cédulée.
Oui.
Tu ne savais pas du tout que j'allais la recevoir. Et finalement, tu m'as dit, « Ah, je veux parler de ce livre-là. » J'ai dit, « Ah, ben mon Dieu, c'est parfait en plus parce que je les reçois. » Mais sinon, je les connais quand même avant ça. Je les connais déjà d'avant ça.
Oui, pour l'interview que tu as fait dans une émission qui a paru à Ami Télé.
Oui, Ami Télé, j'avais fait un reportage, mais... C'est pour ça que j'ai fait le reportage, mais je les connaissais d'avant aussi.
Ah! Quand Julie est là, les étoiles s'alignent. Et ce qui me fait penser à un passage du livre, maintenant que tu me parles de Mia, lorsque sa mère lui a annoncé pour le diagnostic, Mia a répondu, entre autres, je vais devoir mettre ma chambre bien rangée, tu sais, la garder en ordre. Et je trouve que sa réponse témoigne de tellement de...
Maturité,
exactement. Et je vais de ce pas avec le top 4 des moments qui m'ont marqué dans le livre. Bon, un top 4, ça n'existe pas, mais incapable de faire un top 3.
Ben, en fait, qui a dit que ça prenait un top 3, hein?
Pas moi, ça va finir en top 10, cette affaire-là.
Mais là, c'est pour ça. Fait que là, top 4, moi, je trouve ça vraiment parfait. Il y a 4 enfants en plus.
Ah, ben oui, certain. Alors, le premier passage du livre que j'ai adoré, c'est lorsque Edith nous partage. Dans le fond, c'est vraiment dans les yeux d'Edith, le livre, d'accord? Mm-hmm. Comment elle le raconte. C'est ce que j'appelle agrandir sa zone de confort. Et elle raconte des moments vraiment précis du voyage, comme par exemple, passer la nuit dans un autobus.
Mm-hmm.
On s'entend qu'ici, à moins d'une panne de la STM, ça risque pas d'arriver.
Ben, ouais, c'est ça.
manger avec les doigts un repas de pâte de manioc.
Mm-hmm.
Dormir dans un hamac.
Oui.
Utiliser les toilettes turques. Goûter à une boisson à base de lait de jument fermenté.
Mm.
Je connais pas de barista qui fait ça pour l'instant.
De lait de jument.
fermenté. Se laver au seau.
Oui.
Faire un trek dans la jungle. Mm. Dormir sur une natte de bambou.
oui.
Et
c'est toutes des choses à la simplicité, hein?
Oui, ça ramène à l'essentiel.
Ça ramène à l'essentiel. Oui. Il y a quand même une petite gestion ici du confort. Tu sais, on est dans un petit défi à ce niveau-là, mais c'est le fun que c'est ça qu'elle met
de l'avant
oui. Plus que les grands paysages et tout ça.
Exactement. Et ensuite, il y a une scène incroyable, qui est très loufoque, qui se déroule en camping.
Mm-hmm.
Edith est en train de préparer le petit déjeuner. Et là, il y a des chèvres autour de la famille qui zieutent la table.
Mm-hmm.
Et bien, la table de camping, là, on s'entend.
De camping, oui.
Et là, les chèvres se dirigent vers les bananes. Et là, il y a Laurent qui crie « Mes bananes!
Oh. »
Et là, Edith s'empare de la théière et donne des petits coups timides sur le crâne des chèvres.
Oh.
Et ça fonctionne pas parce qu'ils ont la tête dure, propre comme au figuré. Et là, elle donne des coups plus durs de théière.
Oh.
Et là, finalement, les chèvres abdiquent et le déjeuner a été sauvé. Et la famille était en rire.
Et ils ont pu manger
les bananes. oui. Et un autre passage que j'adore, c'est lorsqu'Edith parle des marchés.
Mm-hmm.
À quel point les marchés, soit le cœur battant d'une ville, comme elle le nomme bien, ça met vraiment tous les sens en effervescence.
Complètement.
Par exemple, Louis, avec les bruits d'animaux, de motos, de rires, les clients qui négocient, les variations de langue, dialecte, les expressions familières,
oui.
Les formules de politesse, que tout est propre à la région où l'on est, et vraiment qu'on sent que c'est riche en culture comme lieu.
Mm-hmm.
Puis même les odeurs avec les épices, les fleurs.
Oui.
Et Julie, je suis curieuse de te demander, est-ce que tu vas au marché Jean Talon chercher des fruits et légumes, toi? C'est quoi ton expérience des marchés?
Bien, mon expérience des marchés, c'est beaucoup le marché Jean Talon, hein, parce que sinon, dans les marchés, j'y vais avec ce qui est le plus proche. Alors oui, le marché Jean Talon, moi, je le connaissais de fond en comble, là.
Okay.
Je savais où était placé quel kiosque. Ben, en fait, c'est parce que j'avais travaillé avec mon intervenant de Louis Braille. J'avais dit, moi, je vais être capable d'aller m'acheter des tomates. Je veux savoir sont où les tomates au marché. J'ai dû quand même lâcher prise sur le fait qu'il peut y avoir 12 kiosques avec des tomates et pas les mêmes prix.
Ah oui!
Hein? Et là, moi, je pouvais pas commencer à me promener partout dans le marché et savoir... Ah, ces tomates-là ici sont plus chères, elles sont plus belles. Donc, moi, je savais que j'allais tout le temps à ce kiosque-là. C'était peut-être les tomates les plus chères, mais c'est pas grave. C'était dans ma run, là, je vais le dire de même, dans mon trajet. J'allais chercher mes tomates-là, les cocombes-là, les citrons-là. Tu sais, je me déplaçais comme ça et je devais y aller quand il n'y avait pas trop de monde. Parce que si il manquait d'un ingrédient à midi, le samedi ou le dimanche, je l'ai essayé, mais c'était épouvantable. Julie qui se déplace avec une canne blanche au marché Jean Talon, à cette heure-là, à l'heure de pointe des piétons, c'était pratiquement impossible et je me fonçais dedans. Donc, à ce moment-là, moi, j'y allais le matin très tôt et souvent la semaine. J'y allais à ce moment-là. C'était comme plus facile.
Mais c'est fabuleux que tu aies expérimenté, justement.
Ah, bien, je voulais vraiment. Et souvent, quand j'avais des amis avec moi, bien là, je leur disais, « Hey, on va aller faire un petit tour. » Je les prenais bras dessous, et là, je pouvais aller au marché. Ça me faisait rire à chaque fois parce que là, c'est là que j'avais une amie qui me disait, « Oh, regarde, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, il y a telle affaire ici! » Là, je découvrais à chaque fois des choses que j'étais pas au courant parce que ça évoluait constamment. Mais moi, je restais tout le temps sur mes tomates. C'est ce qui oscule.
Oups, il y a ma feuille en train de tomber. C'est ça qui arrive quand, je suis trop fébrile.
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est mon expérience,
oui,
des marchés.
Fabuleux.
Oui.
Et on arrive à dans la fin de mon top 4. Là.
Oui.
C'est que quand j'ai trop hâte de dire quelque chose, je bloque. Fait que là, j'ai trop hâte de le dire, OK.
Ah, c'est comme un enfant avant Noël, hein? Là, t'es excité.
Oui!
OK.
OK.
Vas-y, respire.
Ça concerne la liste de règles...
Okay. De règlements?
Là, il y a Mathieu qui est désespéré à la technique.
C'est ça. Là... Il dit, OK.
Parce qu'au lieu de respirer, j'ai juste continué à parler sans cesse.
Oui, okay. C'est ça.
La liste de règles de sécurité pour la famille, lorsque la famille était en Zambie, il n'y avait pas de clôture pour les animaux.
OK.
Écoutez, ça vaut la peine de m'avoir entendu pour ce que je m'apprête à dire.
Oui, de t'entendre rire d'avance,
oui, c'est ça,
par rapport à ce que tu vas dire.
Là, dans la liste de règles de sécurité, il y a entre autres... ne pas s'approcher du bord de l'eau parce que les crocodiles peuvent bondir jusqu'à 2 mètres.
Ah! C'est bien?
Oui. Ne pas sortir de la chambre la nuit parce que c'est le moment où les félins chassent.
OK.
Si les éléphants s'approchent, rentrer immédiatement dans le bâtiment principal et attendre qu'ils soient partis avant d'en ressortir.
Les éléphants?
Oui.
Ah!
Et, mes deux préférés. Ne pas s'inquiéter si on entend un bruit de tondeuse en pleine nuit. C'est simplement un des hippopotames qui ronfle endormi près du cottage.
Ah, d'accord.
Et finalement, ne pas utiliser de shampoing à l'odeur de fruits, car les éléphants pourraient vouloir entrer dans la douche.
Oh, wow! Hey, puis c'est tout en plus avec des animaux qu'on n'est pas trop habitués, hein?
Exactement. Et ce livre-là, c'est fabuleux parce qu'il y a différentes sections. C'est pas en ordre chronologique. C'est vraiment comme, elle parle des animaux, elle parle des marchés, elle parle des transports. Il y a aussi qu'elle raconte qu'elle a aimé prendre des photos des toilettes à travers le périple.
Mmh.
Et les toilettes, vraiment, ça change là, d'un pays à l'autre.
Ah bien, c'est sûr! Mais en fait, ce qui est le fun avec ce livre-là, c'est ça, c'est que c'est vraiment plus comme des anecdotes de voyage et non comme l'itinéraire du point A au point B.
Oui, tout à fait. Alors, c'est très riche en souvenirs, en images qu'on peut avoir dans notre tête quand on en prend connaissance. Et évidemment, j'ai lu le livre. Cela dit, c'est aussi disponible en livre audio.
Mm-hmm.
Il y a aussi le documentaire Blink,
oui,
qu'on peut voir à l'écran sur la famille. Et il y a aussi le blog pleinleursyeux.com.
Oui.
Et dans la préparation,
oui,
dans le fond, c'est qu'on va-tu se rendre jusqu'au bout?
On dirait qu'elle a pris plus de café que d'habitude.
Je bois même pas de café, imaginez si j'en buvais.
Ah, c'est ça, imaginez.
Dans le fond, là, ce qui se passe, c'est que... J'espère que c'est pas ma dernière chronique là, avec tout ça, non? OK.
C'est moi qui décide.
Oui? Oui. Ah, OK. Bon. Là, ce que je veux dire, c'est que quand ils préparaient le voyage,
oui,
la famille,
oui,
ils ont dressé une liste d'activités qu'ils voulaient faire durant le périple.
Oui.
Donc, il y a entre autres Mia qui dit qu'elle veut nager avec les dauphins.
Exact.
Léo veut apercevoir des Pokémon.
Mm-hmm.
Colin veut dormir dans un train.
Oui.
Et Laurent veut boire du jus sur un chameau.
Oui.
Et je vous confirme que Laurent a bien bu du jus sur un chameau.
Oui, absolument.
Oui.
Oui. Ça, en fait, c'est la liste qu'ils ont fait avant de partir.
Oui, exactement.
Ils ont demandé aux enfants, qu'est-ce que vous aimeriez? Et là, finalement, eux, ils s'étaient fait un point d'honneur que chaque enfant allait vivre leur moment. Donc, oui, il a bu du jus sur un chameau.
Et voilà. Et là, Julie, je suis curieuse de t'entendre. Quelle place occupent les voyages dans ta vie en ce moment?
Ben, tu sais, je vais te dire dans le sens que en ce moment, dans ma vie, le voyage occupe une place plus au niveau, je vais dire, mental. J'espère voyager dans ma vie, mais je me retrouve de l'autre côté avec le fait que je suis en situation de handicap visuel et souvent, c'est un petit frein aussi. Très honnêtement. Donc, j'y aspire beaucoup, mais il y a tout le temps comme une réticence parce que si j'y vais avec comment je suis dans toute mon énergie, je suis le genre à partir toute seule. J'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Moi, je pourrais dire, je pars demain matin en voyage. Et après ça, il y a toutes les peurs en lien avec l'handicap visuel. Et que je suis une femme. Fait que là, tout d'un coup, je fais « Ah! Ouais! » On dirait que je sais pas par où le prendre, tu sais, de quel bord. Puis en même temps, j'ai pas envie d'aller juste dans des tout inclus, là, tu sais, de faire de la plage, là. Moi, j'ai envie d'aller à l'aventure. J'ai envie d'aller boire du jus sur un chameau, d'aller voir les pyramides, tu sais, d'emmagasiner le plus d'images. Et de l'autre côté, ben, je me retrouve avec l'espèce de frein que j'ai pas de monde autour de moi pour voyager non plus.
Donc, ben, je suis là, moi!
Ben oui, t'es là, toi!
Oui, je suis là, j'ai envie de voyager avec toi!
Bon, ben c'est ça. Fait que je pense que je me fasse une liste.
Ben oui!
En fait, je pense que je vais devoir le matérialiser aussi, t'sais, dire qui veut partir en voyage avec moi, t'sais, de vraiment l'organiser, mais... C'est vraiment dans mes souhaits les plus profonds, là, d'emmagasiner des images.
Fabuleux. Mm. Et advenant là, que tout est en place, que tu as une personne pour t'accompagner, ouais, que tout est là,
ouais,
c'est quelle destination qui t'intéresse? C'est quel attrait touristique ou activité qui ouais, t'interpelle?
Bien, en fait, il y en a beaucoup, 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 là. Donc, moi, c'est sûr que... Ce qui m'interpelle le plus, ben, c'est d'aller découvrir les paysages. Donc, tous les trucs un petit peu atypiques, comme exemple au Pérou, qui a des espèces de dunes de sable colorées. T'sais, c'est comme du rouge, du orange, du rose. T'sais, ah, OK, ça c'est différent. Ça, j'aimerais ça aller voir ça. J'aimerais ça aller voir t'sais, tout au niveau des infrastructures, t'sais, que c'est un peu plus, je vais dire, ancestral, mais avec une culture un petit peu plus, je pourrais dire, t'sais, comme mettons les Mayas, t'sais, les trucs où est-ce que t'sais, il y a vraiment dans la il y a des trucs gravés, tu sais, j'irais pas me promener nécessairement à Paris, là. Ben, oui, éventuellement, mais c'est pas dans mes premiers. On dirait que j'ai plus envie d'aller voir des trucs qui ont une connotation un petit peu plus, je pourrais dire, j'allais dire même un peu au niveau de la spiritualité. Hein?
Oui.
Ouais, je pourrais le dire un peu comme ça. Tu sais, aller voir l'île de Pâques. Tu sais, aller voir des affaires comme ça, un peu plus grand que nature. C'est des choses qui m'attirent beaucoup. Sinon, ben, c'est ça, c'est d'aller voir des paysages, tu sais, comme dans le haut d'une montagne, tu sais, voir des horizons. C'est vraiment plus là-dedans, là, tu sais, que j'ai envie d'aller, là.
Wow! J'adore quand tu me parles de ce qui t'anime et quand je parle du livre « Plein leurs yeux », comme tu sais, j'en perds mes mots. Et ce qui m'a le plus interpellée, c'est que, dans le fond, cette famille a vraiment pris le temps de bien préparer le voyage. Et c'est des personnes qui ont fait des choix, qui avaient un budget. Donc, vraiment, je crois que quand on a un rêve, qu'on a une intention.
Oui.
C'est possible. J'ai envie de... C'est un livre rempli d'espoir, au fond.
Mm-hmm.
D'espoir et de résilience.
Oui.
Puis, juste avant de venir ici, je me suis pratiquée à faire ma chronique devant Joannie et Marie-Pierre. Et quand je leur ai parlé du livre, ils étaient très émus. Et là, elle me demande, « Ah, est-ce que tu as un handicap visuel, Séléna? » Et là, je réponds, « Ah, non. » C'est que ça me passionne, tu sais, de le sujet justement de l'inclusivité, de découvrir. Puis je trouve ça intéressant de... On peut demander à la personne... Tu sais, c'est une question qui devrait être normale à poser, il me semble.
Laquelle?
Ben demander est-ce que à l'autre personne, est-ce qu'elle a un handicap visuel?
Oui.
Tu sais, dans le sens comme... Puis ils m'ont posé la question, fait que je trouvais ça tellement important de sensibiliser. Puis c'est vraiment grâce à toi que je découvre... l'univers, justement, au niveau visuel, mm-hmm. puis les enjeux, puis des questions que je me suis peu posées avant. Puis tantôt, tu parlais des marchés puis des tomates, puis là, je me suis dit, comment tu fais pour voir quand le fruit est mûr?
Mm-hmm.
Tu sais, des questions comme ça.
Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est tout ça qui va se passer au niveau des sens. Tout d'un coup, tu vas sentir, tu vas toucher, tu vas ressentir la texture. Tu vas dire, ah, ici, ça a l'air plus ferme, donc peut-être un peu moins mûr. Mais c'est sûr qu'après ça, des fois, tu manques ton coup, là, tu sais, dans le sens que même si... Tu pensais que, mais des fois, tu vas goûter à ta tomate, tu vas dire, oh mon Dieu, elle n'est pas bonne. Tu sais, tu le sens qu'elle n'était pas prête, nécessairement. Mais tu sais, ça, je trouve que c'est quelque chose aussi qui fait partie de l'expérimentation. Puis moi, on dirait que ça ne me dérange pas. Tu sais, je suis habituée et c'est correct. Mais je sais que ça peut amener d'autres personnes à sentir, tu sais, qu'on est moins, tu sais, comme si on a moins de stratégie, tu sais, le fait d'avoir moins de stratégie, ça peut faire que finalement, ben on est défavorisé par rapport à ceux qui ont leurs yeux.
D'où l'importance d'en parler, ben, de sensibiliser.
Moi, puis, je trouve que oui.
Oui, vraiment.
Puis tu sais, puis au niveau de mon lien avec Edith, qui est en lien avec le voyage, ben avant, dans tout mon processus d'opération, je savais que je m'en allais vers la cécité. Et tout de suite, j'avais dit, puis je me rappelle, j'étais à l'hôpital avec ma mère, et j'ai dit, maman, j'ai dit, si je perds la vue demain matin et que j'ai pas voyagé, puis que j'ai pas vu les paysages, puis que j'ai pas pu emmagasiner le plus d'images, j'ai dit ça, là, ça va être un gros regret. Moi, je suis pas quelqu'un qui a des regrets dans la vie, mais j'ai dit ça serait un regret énorme. Je serais tellement malheureuse. Puis à ce moment-là, ce que j'avais fait, parce que moi, quand j'ai une situation comme ça, que je prends conscience, après ça, je mets quelque chose en place. J'étais allée sur un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Voyageuses du Québec, et j'avais demandé, moi, je veux voyager, donnez-moi vos destinations, s'il vous plaît, les plus sécuritaires. Et... il y a des personnes là-dedans qui se sont même posé plein de questions, dont Edith, qui m'a écrit puis qui m'a dit, nous, on prépare un voyage et on aimerait ça que tu viennes avec nous.
Wow!
Oui. Et là, on était le 8 février 2020. Moi, à ce moment-là, j'étais en processus d'opération et on m'a pas encore enlevé mon œil. Bon, on m'a enlevé mon œil le 18 mars. Donc, un mois pratiquement après, en même temps que la pandémie, ce qui fait qu'Edith n'a pas pu partir non plus en voyage comme c'était supposé. Mais au départ, elle m'avait envoyé tout son itinéraire avec toutes ses destinations et elle m'avait dit « Choisis lesquelles que tu veux, puis elle dit, tu viendras avec nous. » Fait que déjà, j'avais regardé où elle s'en allait, j'avais commencé à faire des recherches. Et on s'était dit qu'on allait voyager ensemble. Là, finalement, il y a eu la pandémie, ça n'a pas marché, mais on a gardé le contact, ce qui fait que je suis allée faire le reportage avec eux à Mi-Télé, je voulais faire ça. Et quand j'ai fait le reportage, là, eux revenaient de voyage finalement.
C'est beau.
Et c'était tellement beau parce que là, c'est comme s'il y avait Edith Je me rappelle, il y avait ceux qui filmaient pour le documentaire le Blink, là,
oui.
les Américains, comme on dit. Les Américains étaient là pendant qu'on faisait le reportage, puis là, ils me demandaient « C'est-tu correct pour toi qu'on vous filme ensemble? » Fait qu'ils ont comme filmé le tournage qu'on faisait.
Un reportage dans le reportage.
C'est ça, c'était un reportage dans un reportage. Et je me rappelle, Edith, elle me tenait par la main, puis elle me disait, tu sais, à quel point que c'était important le lien que j'avais avec elle puis avec sa famille pour autant donner de l'espoir aux enfants, mais aussi aux parents. Parce qu'elle dit, moi, j'ai besoin aussi que tu sois là pour nous, que tu sois là pour notre famille. J'ai besoin d'avoir ce soutien-là aussi, moi, personnellement, comme maman. Puis c'était tellement beau parce que moi, de l'autre côté, ben je disais, hey, ben moi, j'ai dit, c'est la même chose. J'ai dit, moi, d'être en contact avec tes enfants, ton petit pouls de 5 ans. Je trouve ça, moi, ça me remplissait parce que là, à ce moment-là, je sens que je fais une différence, que je peux être aidante dans un contexte comme ça. Et qu'en même temps, on peut tous se soutenir. Qu'on va tous vivre des émotions différentes à travers tout ça. Puis moi, je prends énormément de la force de ces enfants. Fait que c'est vraiment un beau contact que j'ai. Et on s'était dit qu'éventuellement, j'allais voyager avec eux.
J'adore tout ce que tu me partages, ouais. Qui émane tellement de solidarité, de bienveillance, d'entraide. Puis c'est là qu'on voit que malgré les épreuves qu'on traverse, des gens qui nous tendent la main, puis c'est vraiment de part et d'autre que c'est nourrissant, les échanges.
Oui! Oh, c'est beau! Tu vois comment ça finit bien, ta chronique! Oui. Tout en douceur! Séléna, c'est à quel endroit qu'on peut te retrouver sur les réseaux?
Sur Instagram, Séléna Fortier. Ces temps-ci, ce que je préfère, c'est venir à Canela M, vu et voir! On se voit dans un mois!
Oui, exact! Une très belle journée à toi! Merci beaucoup,
merci.
Séléna! Et nous, tout de suite, après la pause, on va accueillir Adam Ossini et on va parler de l'événement magnifique, c'est les yeux fermés et le cœur ouvert. On va en découvrir davantage tout de suite après.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Mais maintenant, j'accueille Adam Ossini. Adam qui va venir nous parler de l'événement Les yeux fermés, le cœur ouvert. Allô, Adam.
Bonjour, Julie. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Bien là, moi, je suis vraiment contente parce que j'ai déjà fait un reportage avec toi l'année passée pour la première édition de cet événement-là. Et tu m'avais déjà dit « Ah, on aimerait ça une deuxième », mais là, c'était pas encore officiel. Et finalement, eh oui, ça va se passer. Mais juste avant, moi, je veux remonter parce que là, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, juste ton histoire à toi personnelle est vraiment impressionnante. Tu n'as pas d'handicap visuel. Tu as 23 ans. Finalement, c'est 23 ans. Tu as 23 ans. Tu étudies en médecine.
C'est bien
okay?
ça.
Tout ça mis ensemble. Et là, on se dit, OK, mais c'est quoi le lien avec l'handicap visuel? Bien, t'as quand même déjà une sensibilisation par rapport à l'handicap visuel qui amène finalement que tu fais cet événement-là. Mais c'est quoi ton lien avec l'handicap visuel?
Donc, j'ai eu la chance, effectivement, à travers non seulement mon parcours sportif, de justement être sensibilisé à la cause de la déficience visuelle. J'ai été mis en contact à travers un congrès de médecine avec un jeune qui a une déficience visuelle. Puis, j'ai eu la chance de lui coacher un peu la natation. Puis, ça a été une belle expérience vraiment pour moi qui m'a appris plein de choses. Puis aussi, j'ai eu la chance de faire de la recherche en médecine dans le domaine de l'ophtalmologie, donc sur la syphilis oculaire en particulier. Donc, j'ai eu un grand coup de cœur pour le domaine de la santé visuelle. Puis ça m'a mené à vouloir créer mon propre premier événement. Donc, le premier événement a été un succès, puis oui. Ça va me faire plaisir de vous en parler davantage pour la deuxième édition.
Vraiment. Mais là, comme tu étudies en médecine, t'es déjà débordé. On le sait, là, étudier en médecine, c'est tout un programme, là. Donc, toi, en plus d'être un grand sportif, d'étudier en médecine, tu dis « Ouais, j'ai encore du temps, on va faire un événement ».
En fait, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Mais t'es pas tout seul. L'année passée, en tout cas, t'avais quatre... Vous étiez quatre.
Effectivement, c'est ça. Donc, il y avait Alicia Bellech, qui est aussi une étudiante en médecine, oui. Francesco Pisegna, Myriam Bellech. Puis, il y a ma sœur aussi qui nous a beaucoup aidé là-dedans et toute ma famille. Puis, cette oui. année, on a grandi l'équipe. On est oui. une plus grande équipe de plusieurs étudiants en médecine de l'UDM, de McGill, de l'Université Laval. Donc, on essaie d'agrandir un peu cet événement.
Donc, encore avec finalement, cet événement-là, avec des gens qui s'impliquent, mais qui sont en médecine.
Effectivement.
C'est fabuleux. Ouais. Est-ce que ça fait que toi, plus tard, justement, dans ton cursus, tu veux t'enligner par rapport à la santé visuelle ou pas nécessairement?
Ben, effectivement, vu que j'ai un grand intérêt, ça serait vraiment un rêve pour moi de pouvoir me spécialiser là-dedans. C'est sûr que je suis encore dans la période de processus d'application aux spécialités, mm-hmm. puis ça serait un honneur pour moi de pouvoir me spécialiser en ophtalmo, effectivement.
Ça veut dire qu'éventuellement, peut-être que c'est toi qui pourrais faire une chirurgie au niveau de la rétine, là. On le sait pas.
On le sait pas. On le sait
mais
pas.
Ça pourrait.
C'est ça le parcours d'un ophtalmologiste.
Donc, on retient ce nom-là, Adam Hossini. Ça se pourrait qu'à un moment donné, il devienne un médecin au niveau de la santé oculaire. Cet événement-là, les yeux fermés, le cœur ouvert. Bon, on a dit qu'il y a eu une édition l'année passée, un franc succès. J'y étais. Il y avait du monde. C'était incroyable. La deuxième édition. On parle de cette édition-là qui est le 2 mars.
Effectivement. Donc, okay. C'est ça. Notre but, c'est vraiment de reproduire un peu les points forts qu'on a réussi à avoir la première édition. Mm-hmm. Donc, je pense que ce qui a été vraiment apprécié, c'était le tournoi de goalball.
Oui.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le goalball, c'est un sport qui est spécifiquement dédié aux personnes qui ont une déficience visuelle. C'est oui. un sport paralympique.
Oui.
Puis moi, j'ai eu la chance d'y jouer. C'est vraiment... C'est un sport assez fun, honnêtement. J'ai beaucoup aimé.
Oui.
Donc, tout le monde
allait... Vraiment, c'est ouais. en fait que tu vois... ou que tu ne vois pas, tu as les yeux bandés et tu fais vraiment... C'est le seul sport qui existe comme ça. C'est pas une adaptation des personnes en situation de handicap. C'est le contraire. C'est le sport est pour les personnes en situation de handicap. Et mm-hmm. toi, si tu as la chance d'avoir tes yeux, ben tu embarques dans cet univers-là de non-voyance.
Ouais, c'est vraiment ça que j'ai aimé de ce sport, c'est que ça permet vraiment l'inclusion de tout le monde. C'est que peu importe le niveau de vision dont tu as, tout le monde est sur le même piédestal, tout le monde a son bandeau, puis il peut jouer au même sport, puis ça, il faut faire beaucoup de communication, essayer de se parler entre équipes, puis écouter le ballon, donc faire preuve beaucoup d'écoute. C'était vraiment impressionnant de voir autant d'enfants en silence dans un gymnase.
Oh.
C'était vraiment impressionnant, puis ça nous a beaucoup touchés.
Ah oh oui, c'était magnifique, parce que là-dedans, il y avait vraiment des tout petits. Mm-hmm. Il y avait vraiment, là, ça partait à quel âge, là? C'était des 5 ans?
Les plus jeunes, je pense qu'ils avaient 8 ans.
8 ans? Oh mon Dieu, ils étaient tout petits.
Ouais,
ils étaient hauts comme 3 pommes. En tout cas, c'était des 8 ans petits. Mais là, ils pouvaient avoir un grand de 17 ans qui était là, là.
Ouais, on a permis justement de... La place a beaucoup d'enfants, donc qui variaient dans l'âge. Puis on a un peu mis les équipes en fonction de la taille des participants pour être sûr que le ballon ne fasse pas trop mal, parce que c'est assez physique comme sport.
Et là, cette année, est-ce que tu es encore en collaboration avec la Fondation? Parce que l'année passée, il était présent, la Fondation des aveugles. Et il y avait aussi un partenariat avec une école, je ne me rappelle plus laquelle, où est-ce que là, il y avait des jeunes qui avaient une déficience intellectuelle?
Effectivement, il y avait justement plusieurs personnes qui venaient de plusieurs milieux socio-économiques. On a fait des collaborations avec plusieurs écoles.
Oui.
Puis on a aussi fait le partenariat avec la Fondation des aveugles du Québec, qui nous ont permis d'avoir beaucoup de moniteurs, puisqu'ils ont de l'expérience là-dedans. Puis tous les fonds ont été remis à cette très, très belle fondation qui met beaucoup d'efforts sur cette cause. Puis on a aussi eu l'expérience de l'ASAC. L'ASAC, c'est l'Association sportive des aveugles du Québec.
Oui.
Ils nous ont prêté le matériel pour qu'on puisse... faire que l'événement soit un réel succès au niveau du goalball, vu que c'est eux les spécialistes du goalball au Québec.
Oui.
Donc, beaucoup de partenariats dans cette journée,
oui. Ah oui, OK. Ça, c'est l'année passée, mais là, cette année, est-ce que c'est encore ça?
Oui, effectivement. On a refait
Parce
tous ces mêmes partenaires.
C'est encore plus gros, mais ça veut dire encore que tu as les mêmes collaborations.
Oui.
Wow!
Puis aussi, au niveau des partenariats financiers, on a eu aussi plus de partenariats au niveau de la collaboration financière. Donc ça nous aide vraiment beaucoup. Cette année, on a eu la chance d'avoir des chandails pour tous les organisateurs.
Oh.
Donc on essaie d'innover aussi à ce niveau-là pour rendre l'événement un peu plus beau aussi pour la journée.
Wow! Ah, oh, ouais. C'est génial! Mais là, cette année, en fait, je pense que le format va être pareil. Ça va être un tournoi de goalball le matin et l'après-midi, des conférences. Parce que l'année passée, c'était ça aussi. Il y avait vraiment les deux volets. Le tournoi, le lunch, les conférences.
Oui, effectivement. Ça va ressembler un peu à la même chose.
Okay.
Je pense qu'on a fait des sondages, puis ça a été apprécié ce format-là, parce que ça permettait d'inclure les enfants le matin, mais aussi une portion pour les adultes en après-midi.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment ça qu'on a apprécié, qu'on peut inclure tous les âges, tout le monde.
Oui.
Et ça peut permettre non seulement aux enfants d'avoir un premier contact avec le monde de la déficience visuelle à un jeune âge, mais aussi pour les adultes d'en apprendre plus avec des conférenciers incroyables qu'on a eu la chance d'avoir l'année passée.
Oui.
Puis je pense que les conférences vont être encore appréciées la prochaine édition.
Là, cette année, les enfants, là, c'est de quel âge à quel âge?
En fait, nous, sur notre site web, effectivement, on dit 10 à 15 ans, mais on est un peu loose au niveau des âges. On accepte un peu plus, un peu moins. Ouais, c'est ça. On réussit toujours à inclure tout le monde.
OK. Et là, il y a aussi la possibilité d'avoir un jeune, comme je disais l'année passée, qui avait 17 ans, mais qui avait une déficience intellectuelle.
Effectivement. C'est ça. C'est vraiment notre but, c'est d'inclure tout le monde. Donc, quand les parents sont motivés puis leurs enfants ont vraiment envie de participer, on a eu beaucoup de messages l'année passée.
Oui.
On disait, avec grand plaisir, on va permettre de lui trouver une belle équipe pour qu'il puisse s'inclure dedans.
Et là, quand tu disais ça s'est élargi là, avec l'équipe, qu'est-ce que ça amène de différent, le fait qu'il y ait plus de monde?
En fait, c'est sûr que l'année passée, ça en faisait beaucoup sur 4 personnes au niveau de l'organisation.
Oui.
Donc là, on a fait comme plein de sous-comités. Donc, des VP médias, par exemple, qui permettent de faire que notre page Instagram soit plus active. On a, par exemple, des VP recrutement qui nous ont permis de recruter des jeunes puis des conférenciers. Donc, cette année, on va avoir la chance d'avoir d'autres conférenciers. Donc, un nouvel ophtalmologue qui va venir discuter, un autre athlète paralympique qui va venir. Donc, ça nous permet de rejoindre plus de monde en ayant des VP dans chaque sous-comité.
Wow.
Donc, c'était un peu ça le but, c'est vraiment d'avoir les tentacules un peu plus larges avec plus de monde.
Mais là, vous êtes combien?
Là, on est une équipe de 14 étudiants en médecine, plus la Fondation des aveugles du Québec.
Wow! Ouais. Parce que là, vous étiez 4. Là, 14, ça fait une grosse différence. Et là, la personne qui chapeaute tout ça, c'est toi?
Encore, j'essaie d'organiser un peu tout ça, effectivement, avec l'aide de mes coéquipiers de l'année passée qui ont de l'expérience aussi.
Oui, c'est ça, mais ça reste que c'est beaucoup toi qui a pris ça en charge.
Oui, j'essaie de donner ma passion pour cet événement aux autres dans l'équipe.
Mais je pense que ça marche bien parce que là, vous êtes rendu 14.
Oui, on fait notre effort au maximum, effectivement.
C'est ça, là, ça veut dire que ça marche bien. Ils veulent s'impliquer, donc ils croient au projet.
Ouais.
Mais là, quand tu parlais des conférenciers, est-ce que tu peux dire un peu c'est qui les conférenciers ou c'est comme un peu secret ou...
Ben, c'est sûr que je veux pas trop peut-être pas parler de leur conférence
mais
je pourrais dire leur nom.
C'est qui?
Ouais.
C'est qui la personne et qu'est-ce qu'elle fait?
Mm-hmm. Donc, on aura la présidente de Mon École Édu qui nous a...
De qui? De quoi?
Mon École Édu, c'est un organisme justement qui favorise l'enseignement chez des gens qui ont une déficience visuelle et intellectuelle.
Mon École Édu?
Oui, c'est ça le nom de son organisme.
Édu?
Éduque, peut-être?
Éduque, peut-être?
Peut-être que je me trompe au niveau
du nom. Est-ce que Édu, c'est comme une abréviation?
Pour éducation, je
pense. Pour éducation?
Ouais.
OK.
Faudrait que je lui demande comment elle a choisi son nom.
Oui, c'est ça. Comment qu'elle s'appelle?
Son nom, il faudrait que je retrouve.
Faudrait-tu regarder, hein? C'est ça, OK. Bon, mais elle est présidente.
C'est la PDG, justement, de cet organisme-là.
OK.
Puis elle nous a sponsorisés, puis c'était vraiment un grand plaisir pour nous. Puis elle va donner une conférence. Puis elle-même, elle a une déficience visuelle.
OK.
Ça a été justement notre VP recrutement qui ont réussi à la recruter avec nous.
Ah,
puis elle
oui.
était aussi présente l'année passée à l'événement, donc elle avait beaucoup aimé.
OK.
On a M. Ouellet, donc c'est un athlète paralympique qui va venir à l'événement. Il va nous parler un peu de son parcours au niveau paralympique.
Lui, c'est paralympique.
Du ski.
OK. Ah, ouais. Nicolas?
Je pense que son prénom, c'est... Mais je sais que son prénom famille, c'est Monsieur Ouellet.
Je pense que c'est Nicolas, mais il y a un S à la fin. Nicolas?
C'est possible.
Et oui, paralympique et en ski, oui, je pense que c'est ça, donc, c'est lui. Oui.
On a aussi Mariam Ghani qui avait donné une fantastique conférence. Elle avait fait participer tous les enfants. Donc, elle a gagné une troisième place, justement, à un concours national de prise de parole en public. Oui. Puis, elle est vraiment fantastique, puis elle va venir nous redonner une très, très belle conférence.
Elle a un handicap visuel?
Effectivement, oui. Elle a perdu la vision à l'âge de 20 ans. Donc, elle a des très beaux discours qu'elle va venir partager, puis elle fait participer les enfants, ce qui est toujours intéressant.
OK. Ouais.
Puis le dernier conférencier qu'on a pour l'instant, c'est Dr Archambault, donc c'est un ophtalmologue pédiatrique.
OK.
Donc lui, il va venir nous donner une conférence justement par rapport à tout ce qui existe en ophtalmologie, c'est quoi les prochaines technologies. Donc justement, le but de cette conférence, ça va être de parler du futur un peu.
Comment t'as trouvé ces personnes-là?
C'est sûr qu'on a eu beaucoup d'aide justement de nos VP recrutement.
Eux aussi, il faut qu'ils trouvent ces personnes. Comment vous... est-ce que vous faites une liste puis là, vous regardez qu'est-ce qui fait plus de sens? Vous dites, elle, on veut vraiment la rencontrer. Mais vous n'avez pas d'handicap visuel. Vous n'êtes comme pas dans ce monde-là. Fait que moi, je me dis, mais comment vous faites pour trouver... des personnes en situation de handicap visuel?
Donc, en fait, comment on a commencé, c'est vraiment de se dire c'est quoi qu'on veut aller chercher. Donc, nous, on voulait avoir des personnes qui travaillent dans des milieux différents. Donc, par exemple, un athlète. Donc, on est vraiment allé du côté sportif. Puis là, on allait voir c'est qui les sportifs qui ont réussi à aller dans des niveaux assez élevés. Puis sur Internet, ça se trouve assez facilement. Donc, on les contacte de cette façon-là.
Ouais.
Donc, je pense que c'est vraiment d'essayer de penser à ce qu'on voudrait avoir comme conférencier. Puis ensuite, on va dans ce domaine-là. Puis on essaie d'aller chercher, par exemple, au niveau, justement, Mariam Ghani. C'est notre collègue Myriam qui, elle écoute beaucoup, justement, de prise de parole en public. Puis elle avait entré en contact avec elle directement. Donc, c'est à travers ses expériences à elle. Sinon, pour Dr Archambault, c'est à travers mes stages en milieu hospitalier que je l'ai rencontré. Donc, je lui ai parlé de l'événement, puis il a tout de suite vraiment été très heureux de nous aider là-dedans.
Okay.
Donc, c'est vraiment, on souhaite avoir des gens qui viennent, qui ont un background différent pour que chaque conférence soit vraiment unique et donner une variété, justement, au niveau des conférences. C'est vraiment ça le but.
Parce que les conférences, c'est et pour les adultes et pour les enfants?
Ouais, donc vu qu'on sait que les enfants, ils aiment peut-être un peu moins les conférences, l'année passée, puis je pense cette année, on va reproduire la même chose, c'est qu'on les fait écouter la première conférence seulement, qui est celle de Mariam Ghani, puisqu'elle les fait participer, elle leur pose des questions. Mm. Puis ensuite, on leur dit que c'est terminé pour leur partie de conférence. Okay. On ne veut pas les garder trop longtemps. On comprend pas toujours facile.
Oui.
Donc, au moins, ils peuvent écouter la première conférence qui est dédiée à eux. Puis ensuite, les autres, c'est un peu plus pour les adultes. Donc, encore une fois, on fait un petit mixte.
Et on les met où, les enfants, après ça, là, pendant que les parents écoutent les conférences? Est-ce que vous avez pensé à organiser quelque chose, soit qu'ils continuent de s'amuser dans un autre local?
Ouais, donc le collège André Grasset a été vraiment phénoménal pour nous prêter leurs installations pour toute la journée. Donc dès qu'on a terminé justement avec la partie de conférence, les enfants, on retourne dans les gymnases, puis on a plein de jeux qui leur attend pour le reste de l'après-midi. Puis il y a certains enfants que on est vraiment flexible, si les parents ont besoin de venir les chercher plus tôt, dès que le tournoi de goalball est fini, ben, ils peuvent rentrer à la maison. Mm-hmm. Puis ceux qui veulent rester, ben, on a des formateurs, des moniteurs de disponibles pour les encadrer, puis pour qu'ils puissent jouer avec eux.
Qui est comme un peu, comme tu appelais, un peu la garderie, là.
Exact, effectivement.
Ah, parce que comme, on s'amuse pendant que les parents écoutent la conférence, mais stressez pas, on s'occupe de vos jeunes pendant ce temps-là. Et dans le fond, c'est comme un peu une continuité aussi pendant le tournoi, parce que le tournoi, ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait justement plusieurs salles qui étaient utilisés, autant les gymnases, où est-ce que là, il y a des tournois, mais c'est pas tous les enfants qui peuvent être en tournoi en même temps.
C'est ça.
Et là, il y avait comme un ou deux locales qui avaient d'autres activités en même temps. Donc, la portion goalball, ça va ressembler à quoi cette année?
Donc, c'est un peu de vraiment faire des matchs. Comme l'année passée, on avait fait 2 matchs. Cette année, on prévoit 2 à 3 matchs par équipe d'enfants.
Okay.
Puis le but, c'est vraiment de jouer son match. Puis ensuite, à la fin du match, on trouvait ça intéressant de peut-être prendre une pause et de faire comme un peu d'autres choses. Donc, on avait amené justement l'année passée un clown qui faisait des sculptures de ballons. On jouait aussi à des jeux où il fallait utiliser nos sens pour essayer de toucher un peu les formes sur le sol puis les agencer ensemble. Donc, on a préparé plein de petits jeux qui utilisent les sens, toujours les yeux bandés.
Oui.
Puis ensuite, pour se préparer puis créer cette cohésion d'équipe pour le prochain match qui les attend. Donc, c'était un peu ça l'idée de créer des petites pauses entre les matchs dans une autre salle.
Ben moi, je trouvais que c'était vraiment fabuleux là, que vous aviez pensé à ça et non que les enfants sont là à attendre, et là, de se désorganiser. Mais là, ça veut dire que cette année, c'est un peu la même chose. L'organisation, il y a encore les autres activités en même temps?
Oui, c'est sûr que là, on va essayer de changer les activités. On va essayer d'innover à ce niveau-là.
Ben, est-ce que vous savez c'est quoi les activités? Vu que c'est le 2 mars, est-ce que vous êtes encore en train de peaufiner des trucs où tout est réglé?
Ben, on a des bonnes idées.
Oui, parce que c'est ça, la façon dont tu parles, c'est comme si on a des bonnes idées. Mais... Okay.
Rien n'est fixé dans le béton parce que c'est la salle qui fait un peu preuve de créativité.
Oui.
Donc, on voulait aussi, on récolte en ce moment des bénévoles pour la journée. C'est notre partie de recrutement bénévole.
Ah.
Puis l'année passée, il y a comme 2 bénévoles qui nous avaient trouvé des idées pour cette salle.
Okay.
Donc, on est vraiment ouvert à la créativité pour cette salle qui est vraiment pour s'amuser. Donc, honnêtement, on a nos idées, mais on est aussi ouvert à des futures éventualités pour cette salle-là.
Vous êtes ouvert aussi aux suggestions.
C'est ça, ouais.
De là, pourquoi les auditeurs, ben, si vous avez des suggestions, ne vous gênez pas, vous pouvez les envoyer ton site, là, je l'avais décrit, là, mais c'est ça, c'est facile, c'est les lettres de...
C'est ça.
Les yeux, donc L, Y...
C'est ça. Donc, L-Y-F pour les yeux fermés.
Les yeux fermés.
L-C-O, le cœur ouvert. Donc, L-Y-F-L-C-O.ca.
C'est ça, pour donner les suggestions.
Voilà.
C'est le 2 mars. Si moi, je dis ça, je n'ai pas regardé mon horaire. Je ne sais pas, le 2 mars, je suis où? C'est un samedi?
C'est un dimanche.
Ou un dimanche, bon.
Ouais.
Si le dimanche, le 2 mars, je me dis, « Ah, oh, tiens, moi, il me semble que j'aimerais ça aller faire un petit tour pour donner un coup de main.
Mm-hmm. »
Je pourrais?
Définitivement.
OK. Parce que l'année passée, je me rappelle, vu qu'on a fait le... C'était au mois de novembre.
Oui.
L'année passée, je me rappelle, on avait fait le tournage à mi-télé et je me suis retrouvée à être très impliquée dans... Mm-hmm. Dans le processus, parce que là, ben moi, j'ai des élèves que je sais que, OK, lui, je vais faire une entrevue avec lui aussi. Toi, t'as un walkie-talkie, tu cours partout. Les autres aussi, il y a plein de pièces. Et je me rappelle que j'étais rendue que j'avais un walkie-talkie parce que là, c'était comme plus simple. Fait que là, j'avais la fondation qui me parlait, j'avais le papa d'un qui me parlait. Tu sais, tout le monde me parlait. Bon, il est où Adam? Ben, je sais pas, il est où Adam? Il est dans une salle à quelque part à gérer aussi autre chose. Fait que finalement, c'est comme si j'étais devenue...
membre du comité.
Ouais, j'étais comme si je faisais partie du comité. Puis à un moment donné, il était question d'aller manger. Mm-hmm. Puis je me rappelle que là, j'étais arrivée puis je faisais... j'entertainais les jeunes pendant qu'ils se plaçaient parce qu'il y avait... probablement, j'aime ça. Ça, c'était l'éducatrice spécialisée en moi qui remontait et qui était bien heureuse de ça. Mais c'est pour ça que je m'étais dit, ben moi, c'est le genre d'événement que je trouve qui est tellement bien organisé que, tu sais, ça me ferait vraiment plaisir de m'impliquer puis d'y aller puis de juste être comme un support, finalement, puis de faire l'espèce de trafic entre les salles et tout ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants.
Oui.
Beaucoup. Ouais. Là, cette année, vous attendez à peu près combien d'enfants?
On va essayer de faire un peu le même nombre. Parce que je pense que plus que ça, ça serait un peu trop. Fait qu'on va limiter, on va limiter ça à 60 enfants.
Mais c'est beaucoup.
Ouais.
C'est quand même beaucoup, 60.
Ouais.
Et là, y a-t-il encore l'école là, qui avait un partenariat?
Oui, il y avait l'école Bienville qui était venue.
Que c'est avec le papa de...
D'une des... Ah oui, ça c'est l'école de... Saint-André à Pôtes, je pense.
Oui, c'est ça. Ben, parce que la fois, il y a le papa d'une des quatre...
Oui, qui est professeur, justement, dans une école dont les enfants ont une déficience visuelle.
C'est ça, c'est ça.
Intellectuelle.
Intellectuelle, ouais. Exactement.
Effectivement.
Fait que lui, je me rappelle, je parlais beaucoup avec lui, justement.
Ouais, c'est Ramdan, effectivement. Il est
bon,
professeur.
Ben c'est ça, c'est ça. Eux, ils vont être encore là?
Oui, on les a encore invités, donc on attend aussi un bon nombre de cette école-là. On espère qu'il y aura une belle participation.
Donc, pour ça aussi, c'est qu'il y a des jeunes en situation de handicap intellectuel et ceux qui ont un handicap visuel et tout ça. Donc, c'est super intéressant de voir, tu sais, de tout mettre ce beau monde-là ensemble. Et là, tu me disais que par équipe, vous vouliez avoir tout le temps... un enfant avec un handicap visuel. Ça, c'est comme un point d'honneur là, que vous faites.
Oui, définitivement. Ça, c'est vraiment le point le plus important pour notre événement.
Oui.
Parce qu'on se dit que s'il y a cet élément d'inclusion à un jeune âge, notre vision, c'est que quand ces jeunes-là vont déjà avoir eu un premier contact avec une personne qui a une déficience visuelle ou une personne qui a un handicap intellectuel, ben,
oui.
plus tard, ben, justement, ils vont faire preuve de beaucoup plus d'inclusion puisque ça aurait déjà été quelque chose dont ils ont été en contact quand ils étaient jeunes.
Ouais.
Puis juste le goalball, il y a tellement d'enfants qui ont tellement aimé cette expérience. C'est une première pour comme 90%.
La plupart. Là. Oui, oui.
Donc, on se dit que ça leur pique leur intérêt sur cette cause-là. Puis plus tard, ils voudront peut-être s'impliquer.
C'est beau ça. Mm-hmm. Et avec la Fondation, justement, vu que vous avez un partenariat avec la Fondation des aveugles, c'est eux, en fait, qui organisent quelque chose aussi pour aller chercher ces jeunes-là en situation de handicap visuel?
Oui, donc c'est vraiment la Fondation des aveugles avec leurs jeunes à eux qui sont déjà membres de la Fondation, qui participent à toutes leurs activités. Donc c'est vraiment la Fondation. Ils avaient un bus scolaire l'année passée. Ils sont venus tous ensemble. Puis c'était vraiment génial, une belle organisation de leur part à ce niveau-là. Puis aussi leurs formateurs qui sont, leurs moniteurs, ils s'y connaissent très bien.
Oui.
Donc ils savent comment gérer ce genre d'événement. Ça nous a vraiment beaucoup aidé d'avoir leur expérience dans cette journée, effectivement.
Et ça veut dire que, est-ce que tu as une idée de, OK, on a tant de jeunes en situation de handicap visuel ou ça, c'est encore en inscription en ce moment?
C'est sûr que même l'année passée, le dernier mois, c'est la période où tout le monde s'inscrit. C'est toujours comme ça. Donc,
oui.
Nous, la Fondation est déjà au courant. Ils ont parlé de ça à leurs jeunes. Fait qu'actuellement, j'ai pas la liste complète, mais effectivement, la Fondation, c'est eux qui vont vraiment s'occuper de cette partie-là.
Cette portion-là.
Oui, effectivement.
OK.
Ouais.
Et là, c'est combien ça coûte? Là? Parce que je pense qu'il y a un tarif enfant, un tarif adulte ou un tarif conférence, tournoi, je me rappelle plus trop.
Oui. Donc, en fait, pour les enfants, ça comprend justement la participation au tournoi, toute la journée où vraiment on s'occupe de tous les enfants. Il y a aussi un lunch de fourni pour tout le monde.
Mm-hmm.
Donc, tout ça et plus une portion qui est vraiment un don. Donc, ça, c'est 15 $ pour les enfants. On essaie vraiment de faire un prix qui est abordable le plus possible.
Vraiment.
Puis, si vraiment il y a comme un souci au niveau, justement, du prix, etc., on est vraiment ouvert à justement faire un prix un peu plus abordable pour les familles que peut-être c'est un peu trop élevé. Notre but, c'est vraiment d'utiliser un peu cet argent-là pour redonner à la Fondation.
À la Fondation,
ouais, c'est un peu
ça
le but des prix des billets.
Oui.
Puis au niveau des adultes, c'est 25 $. Puis ça comprend les conférences, puis aussi le buffet qu'il y avait juste après. De la nourriture un peu pour tout le monde. Puis ça a été fait par une entreprise familiale qui nous avait vraiment cuisiné.
Comme l'année passée.
Oui, c'est ça.
Oh. C'était
donc
tellement bon.
C'est vraiment beau et bon. Donc,
déjà le matin, hein? Parce que, tu sais, en fait, t'arrives le matin, il y a déjà des petits trucs, des grosses pâtisseries. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires déjà que tu peux manger, tu sais, comme café et viennoiserie et tout ça. Ça, c'est inclus.
Ouais.
Là, après ça, t'as l'activité Gold Ball, le lunch, les conférences, le buffet. Et tout ça, très, très, très abordable.
C'est ça. On essaie toujours de rester dans des prix abordables parce qu'au final, comme on l'a dit, notre but, c'est d'inclure le plus grand nombre de personnes.
Exact. Et tous les sous sont remis à la Fondation des aveugles.
Oui, 100%.
100%.
C'est ça.
Ça aussi, là, tu sais, ça veut dire que vous vous impliquez bénévolement toute l'année, mais finalement, vous gagnez rien là-dedans, là, financièrement, là, c'est vraiment pour tout redonner. c'est quand même assez extraordinaire pour des jeunes en plus. Tu sais, des fois, ça pourrait être facile de vouloir dire « Hey, on fait ça, on s'implique, mais on veut garder de l'argent, mais pas du tout. »
Non, notre but, c'est vraiment de redonner à travers cet événement. C'est sûr que notre but premier, justement, c'est vraiment de faire connaître la cause, de favoriser l'inclusion. Ça, c'est notre but premier. Donc, même si l'année passée, on s'est dit si on n'avait pas de profit à la fin de cet événement, tant qu'on tombe dans nos chiffres exacts, on était déjà très fiers et contents.
Oui.
Puis après, si on est capable d'avoir des profits à travers la vente des billets, ben là, on est content aussi que la Fondation puisse en bénéficier après tout ça.
Mais merci beaucoup, Adam. Ça a été un immense plaisir. J'invite les gens à aller voir l'événement Les yeux ouverts, non, Les yeux fermés, le cœur ouvert. Et on peut aller s'inscrire encore, c'est le temps. Merci Adam. Et moi, je suis très contente de cette belle émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde. Et puis, moi, je suis emballée de pouvoir vivre cette aventure à Mission Vision. Bye bye tout le monde.
Merci beaucoup.